Europe 1 Culture Média. 9h, 11h.
Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi de commencer la semaine avec vous et Culture Média. Élise Pressac au menu, médias et culture au sens large, tous les médias et toutes les formes de culture et même, si j'ose dire, la culture du virus dont on va parler aujourd'hui car ça y est, les cinémas rouvrent enfin. Mathieu Charrier nous dira dans quelles conditions sanitaires et spatiales. Double bonne nouvelle, vous allez avoir de la place pour poser vos affaires. Nous sommes ensemble pour 2 heures en direct. Vous pourrez évidemment podcaster l'émission ou la partie qui vous manque sur europe1.fr. Notre infomédia avec Légende, encore un pari fou d'Éric Fautourino. Alors qu'on nous explique que désormais il faut faire court, rapide et en digital, il lance un trimestriel sur papier au format géant. Il sera avec nous, le trimestriel et Fautourino. Au sommaire également, l'émission Quotidien qui inaugure demain soir une nouvelle collection sur TMC, ça s'appelle Doc Quotidien. Emmanuel Lebert signe le premier numéro, un an chez les vieux. Comment ils sont devenus plus cool que les jeunes? Oui, c'est le titre. Et il a bien dit les vieux et non pas les seniors, ni même nos aînés, j'arrive à le dire. Lui, il nous dira pourquoi. Les vieux, donc. Enfin, la chanteuse Émilie Loiseau pour son nouvel album Run, Run, Run. En hommage à Lou Reed, il y aura en prime son portrait inattendu. Nous sommes ensemble jusqu'à 11h. Bonjour Céline Dacosta.
Bonjour Philippe Vandel, bonjour à tous.
Bonjour Cyril Lacarrière.
Bonjour Philippe Vandel, bonjour à toutes, bonjour à tous.
C'est votre journal des médias. Qu'y a-t-il au sommaire ce matin?
Du mouvement parmi les producteurs français, ça tangue chez BFM. Les plateformes de presse en ligne se rapprochent. Denis Brognard, lui, lève le pied. Et Tom, lui, il nous lâche.
On commence par les audiences. Qu'est-ce que les Français ont regardé hier soir à la télé et même ce week-end?
Victoire de TF1 hier soir, près de 4 700 000 personnes ont regardé le film Spy. France 2 suit avec le duo Danny Boone-Vincent Lacoste. Le film Lolo a été regardé par plus de 3,5 millions de téléspectateurs. Et France 3, avec sa série Hudson & Rex, a attiré pas loin de 2 900 000 téléspectateurs.
Et Cyril, nous sommes le week-end, nous revenons du week-end, les audiences de vendredi et de samedi soir.
C'est assez rare pour être souligné, France 3 a réalisé un doublé ce week-end. D'abord, donc vendredi, avec la rediffusion du téléfilm Jusqu'à ce que la mort nous unisse, regardé par près de 4 300 000 téléspectateurs. C'est 500 000 personnes de plus que le grand concours des animateurs sur TF1, qui lui était inédit. Et samedi, c'est encore grâce à une rediff que France 3 a pris la tête. Cette fois, il s'agit du téléfilm Le mort de la plage, qui a été suivi par près de 4 400 000 Français. En nombre de téléspectateurs, France 3 devance encore assez largement TF1, qui proposait le spectacle de Jeff Panaclock.
Culture Média.
Et on commence ce journal des médias, Cyril, avec une très grosse annonce côté business.
Et c'est effectivement du lourd. Le grand public ne connaît peut-être pas le nom de Media One, la société fondée par Xavier Niel, le patron de Free, Pierre-Antoine Capton, le producteur notamment de C'est à vous, et Mathieu Pigas, le patron des Inrock et de Radio Nova. Pourtant, en quelques années, Media One est devenu un des plus gros producteurs européens. Et il est en passe de continuer à grossir. Le groupe annonce ce matin une vaste opération stratégique. Le rachat, d'abord, de Troisième Œil, la société créé par Pierre-Antoine Capton il y a presque 20 ans, celui de Good Mood, une maison de production audiovisuelle, et surtout celui de Lagardère Studio, le gros morceau de cette opération. Lagardère Studio, c'est 25 labels de production, d'où sont sortis notamment récemment la série documentaire Événement sur l'affaire Grégory, diffusée sur Netflix, la série The Eddy, là encore sur Netflix. On y trouve également des émissions très connues comme C'est dans l'air sur France 5. Les prétendants au rachat de Lagardère Studio ne manquaient pas. Parmi eux, il y avait les Espagnols de Mediapro et plus récemment Fabrice Larue qui a créé il y a quelque temps déjà Newen, mais c'est finalement Media One qui devrait emporter le morceau. Le groupe du trio Niel, Capton, Pigas a déposé une offre de rachat ferme qui pourra atteindre 100 millions d'euros. Attention quand même, l'opération n'est pas bouclée. Media One et Lagardère doivent encore s'entendre sur les termes du deal.
Et on va signaler du rififi du côté du groupe Next Radio TV, propriétaire entre autres de BFM TV, RMC, BFM Business et les chaînes RMC Story, RMC Découverte et RMC Sport.
En cause, le plan de restructuration proposé par la direction du groupe et qui prévoit entre 330 et 380 départs parmi les 1600 salariés. On vous en parlait encore en fin de semaine dernière et ces chiffres provoquent évidemment beaucoup de remous au sein des équipes de toutes les chaînes. Ce week-end, les sociétés de journalistes de toutes les rédactions ont publié des communiqués pour faire part de leurs inquiétudes et demander à préserver les emplois. Nous avons joint François Pitrel, c'est le président de la SDJ de BFM TV, et nous explique les raisons de son inquiétude.
Moins de journalistes, ça crée une interrogation sur le maintien d'une ligne éditoriale et d'un contenu éditorial riche, fourni avec un nombre de journalistes important comme on en dispose aujourd'hui. C'est vrai qu'on est une rédaction qui aujourd'hui est relativement conséquente, mais ça nous permet de travailler dans des conditions bonnes pour rendre une information de qualité et rapidement, puisque c'est la mission qu'on demande à une chaîne d'information en continu.
Beaucoup de questions donc, et pour le moment peu de réponses, car si on a d'abord pensé que le plan social toucherait avant tout les activités liées aux offres de sport, dont le groupe, on le sait, a perdu des droits au fil du temps, il devrait en fait être beaucoup plus large. C'est ce qui a surpris la rédaction de BFM. François Pitrel nous donne son ressenti.
C'est vrai qu'on n'avait pas forcément l'impression à BFM TV, je peux parler que pour BFM TV, mais on nous a toujours dit que on avait des audiences, des rentrées publicitaires notamment, qui étaient bonnes. On a toujours eu l'image d'un groupe, en tout cas, qui était rentable. Donc forcément, ça a choqué l'ampleur de ce nombre de suppressions de postes envisagées. Ça a un peu choqué, ça a un peu coupé les pattes de beaucoup de gens dans la rédaction, même si, encore une fois, on ne sait pas dans quelle mesure et dans quelle ampleur la rédaction de BFM TV sera touchée.
On l'entend au mot prudent du journaliste de BFM. Personne n'est à l'abri de se faire embarquer par cette vague de départ. Dans le calendrier, une assemblée générale est prévue demain, mardi. Elle doit permettre d'y voir plus clair sur la situation. Pas impossible non plus que le principe d'une grève soit voté au cours de cet AG. Depuis sa création, il y a 15 ans, jamais, jamais, BFM n'a été touché par un mouvement de grève.
Et puis, il y a du mouvement du côté des offres de presse en ligne.
On a appris ce matin que la plateforme Caféine vient de conclure un accord avec SFR Presse. Caféine, c'est une offre qui permet à ses utilisateurs de lire une large partie des journaux et des magazines français contre un abonnement mensuel, un peu comme ça se passe pour Spotify, pour la musique ou Netflix avec les séries. À ce micro, on avait parlé de ce rapprochement de Caféine avec son concurrent SFR Press, dont veut se débarrasser Altice, le propriétaire actuel. Finalement, cette opération se fait en deux parties. D'une part, Caféine rachète à SFR une start-up, Millibris, qui permet aux éditeurs de numériser leur contenu. Et d'autre part, Caféine conclut un accord de distribution avec SFR Press qui va, au fil du temps, devenir Caféine. Arié Assuyed, le patron de Caféine, nous explique comment il voit l'avenir de sa jeune entreprise et du marché de la presse en ligne.
Nous, notre ambition, c'est continuer à nous développer. On a une vision très ambitieuse et on a une conviction que le marché qu'on est en train de porter est un marché assez gigantesque, un peu similaire à ce qu'on a pu voir dans d'autres industries culturelles comme la musique ou la SVOD. On aime bien se comparer à des acteurs comme Spotify ou Netflix. On a des particularités puisque d'abord l'industrie, même si elle est en souffrance, a connu pas forcément des changements économiques aussi brutaux que ce qu'ont pu connaître les majors de musique il y a quelques années. Il y a quand même une résistance forte des revenus historiques liés au papier. Et donc pour nous, en fait, l'opportunité de marché est gigantesque et l'internationalisation est notre enjeu principal.
Une ouverture vers l'international qui a déjà commencé. Caféine est déjà présent notamment en Angleterre et en Italie. Une start-up française qui prospère bien.
On va sur TF1 maintenant. Le très occupé Denis Brognard a décidé d'alléger son emploi du temps à partir de la saison prochaine.
Ça faisait 8 ans que Denis Brognard présentait Automoto. Eh bien, l'animateur a décidé de lever le pied.
Je voulais vous confirmer l'information que j'arrêtais la présentation d'Automoto après 8 ans d'une expérience fabuleuse. Mais il était temps pour moi de passer le flambeau à Jean-Pierre Gagic, qui m'a très souvent remplacé lors de mes absences pour Koh-Lanta notamment. Je vous embrasse, à très vite.
Voilà, Denis Brognard sur une plage au Touquet. c'est une vidéo qu'il a postée sur son compte Twitter. Et Denis Brognard donc quittera définitivement l'émission dominicale de TF1 le 12 juillet. Pas question de chômer pour autant. Brognard sera toujours le présentateur de Koh-Lanta, de Ninja Warrior. Et il sera également aux commandes d'un nouveau programme, District Z, produit par Arthur.
Et puis Cyril, vous souhaitiez dire un mot pour terminer ce journal des médias.
Ouais, Tom Leb ne représentera pas la France à l'Eurovision 2021. Voilà, c'est dégueulasse. Dégueulasse, hein. Alors, je pourrais vous ajouter que France Télévisions a de nouveau décidé de changer de formule pour choisir le candidat. Je pourrais vous dire que les candidats peuvent envoyer leur maquette à partir du 29 juin. Je pourrais vous dire aussi qu'il y aura même une grande émission pour choisir ce nouveau représentant. Je pourrais vous dire tout ça, mais je ne vous dirai pas. Je ne vous dirai pas parce que ma chance est passée, a dit un grand gentleman Tom Leb. La nôtre aussi, Tom.
Merci beaucoup, Cyril Lacarrière. Deuxième chance demain et pour toute la semaine, évidemment. On se retrouve demain pour un nouveau journal des médias.
À suivre dans l'info média du jour, Légende, c'est le nom du nouveau projet d'Éric Fotorino, le patron de l'hebdomadaire Le 1 et des trimestriels Zadig et America. Il sera avec nous pour en parler dans un instant sur Europe 1.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média, Philippe Vandel.
Et c'est alors Philippe de l'Info Média du jour.
Et c'est un nouveau venu dans les kiosques et c'est déjà un grand 27 cm sur 40. C'est le format à l'intérieur, 70% de photos, donc 30% de texte. Voilà pour les chiffres. Les lettres L s'affichent en capitale, légende au singulier. C'est le nom du nouveau trimestriel lancé par Eric Fotorino que je montre sur Europe 1.fr. À la une de ce premier numéro, une légende évidemment du football, Zinedine Zidane. Bonjour Eric Fotorino.
Bonjour Philippe Vandel.
La question que tout le monde se pose, y compris les banquiers, pourquoi lancer un nouveau trimestriel maintenant dans la situation économique difficile qu'on connaît ?
Alors vous savez, lancer une publication comme celle-là, c'est une affaire de longue haleine, c'est-à-dire que ça fait longtemps qu'on y pense, que j'y pense, et je pense qu'il était important de garder le timing, le tempo, c'était pour ce printemps, pour ce début d'été, et malgré le Covid, malgré effectivement les difficultés de distribution des journaux et de Presstalis, je voulais maintenir ce cap, parce que au fond, il faut jamais oublier qu'on travaille pour des lecteurs et je pensais que les lecteurs seraient au rendez-vous et d'après les 3-4 premiers jours de vente, je vois bien qu'ils sont là, qu'ils attendaient et c'est ça qui compte.
Alors je dois dire, je sors de mon rôle, que le magazine est absolument magnifique. Racontez le principe de légende.
Bah, légende, c'est assez simple. Hein. C'est chaque trimestre, hein, c'est un trimestriel, raconter une figure contemporaine plutôt vivante, mais ça pourra être aussi des personnes qui ont disparu, des icônes qui sont encore très présentes dans nos esprits. On pourrait penser par exemple à Coluche ou à Mohamed Ali ou de grands politiques comme a pu être Nelson Mandela par exemple. Donc si vous voulez, c'est raconter ces figures, tourner le miroir vers nous. Qu'est-ce qu'ils disent de nous? Qu'est-ce qu'ils disent de notre époque, de l'époque dans laquelle ils ont émerger et puis donner à voir, c'est-à-dire en effet de façon quasiment géante, hein, réinventer un objet de presse, là encore comme on l'avait fait pour le 1 il y a 6 ans, avoir un objet très singulier, très particulier, d'une certaine manière qui crée du manque, c'est-à-dire si vous ne l'avez pas, il peut vous manquer.
Ouais. Y a beaucoup d'images, je suis en train de montrer ceci à la caméra, vous avez autant soigné le fond que la forme. La maquette d'abord, pourquoi un si grand format Eric Fotorino? Pour se différencier ou parce que ça avait un sens intrinsèque si j'ose dire?
Ben, je pense les deux, mais le sens, c'est-à-dire qu'une photo, c'est toujours plus fort quand c'est plus grand. Et si vous voulez, quand on prend la crise de la presse actuelle, c'est que je pense que souvent elle ne fait pas des choix assez radicaux. Et la photo, on n'a pas une culture en France de la photo, à part quelques grands journaux comme Libération. Libération nous a appris la grammaire de la photo dans la presse écrite. Mais aujourd'hui, je pense que si on veut montrer en grand une réalité, eh bien, il faut choisir un format qui corresponde, qui rende justice à la photo. Quand vous voyez la photo d'un but, quand vous voyez la photo d'une foule, quand vous voyez la photo de la jeunesse de Zidane en 1998 et de son équipe des Bleus, ouais. Eh bien, quand vous avez ces photos plein pot, si j'ose dire, sur des grandes doubles pages, eh bien, vous êtes dedans, vous êtes dans la photo, vous ne restez pas à l'extérieur.
Comme on dit, c'est un bel objet, on dit ça dans le métier, il a une bonne main. Vous avez même soigné le papier, j'ai l'impression.
Oui, si vous voulez, je ne voulais pas que ce soit un objet intimidant, je voulais qu'il soit maniable. Vous savez, ce n'est pas comme ces livres qu'on appelle en mauvais français les coffee tables qui restent sur les tables de salon et on ne les ouvre pas parce que
vous savez quoi, c'est les livres de cuisine trop beaux et du coup on n'ose pas mettre de l'huile dessus, voilà. Et on ne s'en sert jamais.
Exactement. Moi, ce que j'ai voulu avec Légende, c'est vraiment créer un compagnon que vous allez vouloir feuilleter tout de suite, que vous allez vouloir donner, offrir. Et vous pouvez même le lire dans le métro, pour le coup. Même les gens vont vouloir vous le piquer, ça, c'est autre chose. Ouais. Mais si vous voulez, je pense qu'il faut que ce soit... Donc, le papier, il est à la fois souple et en même temps, il est solide parce que effectivement, les photos qu'on publie sont très... j'allais dire, elles ont ce côté précieux que peut avoir... Bah quelque chose qu'on aurait envie d'encadrer.
Donc Zidane comme première légende, vous l'avez fait avec ou sans lui?
Contrairement à moi. Sans lui.
Vous ne lui avez pas demandé son avis?
Non, parce que si vous voulez, je pense que moi, mon principe depuis toujours, hein, c'est d'avoir des journaux vraiment indépendants. Et je pense que si je disais à une personnalité, quelle qu'elle soit, je vais vous consacrer 100 pages, il aurait quand même cette tendance naturelle à vouloir un peu contrôler Bien ou superviser. Sûr. Donc là, non, c'est notre Zidane. Il y a des textes vraiment magnifiques de Vincent Duluc ou d'Olivier Guèze et d'autres, mais aussi de Besma Laouri, qui est un texte assez critique, parce qu'on ne veut pas faire d'agiographie des légendes qu'on présentera.
Oui, puisque vous parlez de Vincent Duluc, écrivain, journaliste, grande plume de l'équipe, il revient sur ce soir du 9 juillet 2006, le coup de tête de Zidane sur le torse de Materazzi, l'Italien. Vincent Duluc écrit ceci: il vivrait avec le remords d'avoir préféré l'absurde fierté à la légende, d'être le capitaine offensé qui avait refusé de tenir 10 minutes de plus sous l'outrage. Au bout de 11 années et 11 mois de vie en bleu, sortir du rang juste avant que la lumière ne s'éteigne était un orgueil, peut-être, mais un adieu d'une beauté paradoxale également, une manière absolue et sans égale de quitter la scène. Est-ce que Zidane serait une légende également, de la même manière, sans ce terrible coup de tête ?
Ah non, sûrement pas. D'abord, petite parenthèse, vous voyez qu'il n'y a pas que de la photo dans Légende. Quand on voit ce texte, qui est ce souffle qui
exactement.
Nous emporte sous la plume de Vincent Duluc, c'est quand même extraordinaire. Moi, j'ai vibré en lisant ce texte. Hein, je peux vous dire, j'ai lu beaucoup de choses, comme beaucoup d'entre nous, sur Zidane, et ce texte est vraiment magnifique. Mais si vous voulez, c'est vrai que je pense que cette légende, Zidane, est aussi une légende, parce que comme le dit dans un autre texte la philosophe Adèle Vendrette, il a montré qu'il acceptait aussi d'être humain et de ne pas être parfait.
Oui.
Et donc, c'est vrai que dans Zidane, il y a tous les moments flamboyants. Et puis, il y a cette mort sportive qu'il décide à un moment donné. Alors, c'est par un coup de tête, c'est si j'ose dire. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui arrive, qui n'est sûrement pas prémédité, mais qui a été aussi une manière de ponctuer en noir une légende dorée.
D'un mot, vous dites avoir lu beaucoup, beaucoup de choses sur Zidane. Qu'est-ce qu'on trouve dans Légende ? Qu'est-ce qu'on lit qu'on n'a pas déjà lu sur Zidane ?
Bien, d'abord, il y a effectivement cette envolée lyrique que nous offrent des écrivains comme Duluc ou comme Olivier Guèze, qui est un fou de foot, qui avait écrit un très beau livre sur l'art de l'esquive.
Oui, je me souviens de ce livre.
Voilà, c'est vraiment.
Il y a aussi Philippe Delerme, on va tous les citer. Il y a Christophe Onodibio, il y a Zoé Valdès. Il y a Veillargance, il y a Jean-Philippe
Dubois,
Toussaint et Jean-Paul Dubois. Disons, c'est le prix Goncourt.
C'est le prix Goncourt de l'année. Alors ça, c'est quelques textes qui sont parus à l'époque, qui nous ont très gentiment offert pour Légende. Et puis, il y a un texte assez étonnant de Jérôme Fourquet, donc politologue, sociologue, qui vraiment suit la France dans ses convulsions et quelquefois ses errements politiques, sociologiques. Et là, il raconte ce que c'est que la France de Zidane par rapport à la France de Mbappé. Et ça, je trouve que c'est vraiment formidable parce qu'on a tout d'un coup un regard décalé, comme un pas de côté. On n'est plus vraiment dans le football. Et puis, il y a un reportage de Denis Trocero de La Provence sur la Castellane, le quartier de Marseille où Zidane a frappé ses premières balles. Mmh. Et là encore, avec des photos magnifiques. Et tout d'un coup, vous avez cette espèce l'épaisseur d'un portrait à la fois sociologique d'un gamin d'une cité de Marseille.
Et vous savez quoi, Eric Fotorino, on n'a pas encore parlé de Stéphane Meunier et des yeux dans les bleus. Vous restez avec nous.
Nouveau trimestriel dans le monde de la presse. Il s'appelle Légende et consacré aux grandes figures de notre époque. On continue à en parler avec son fondateur, Eric Fotorino, dans un instant sur Europe 1.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média, Philippe Bondel.
Eric Fotorino est notre invité pour parler de son nouveau trimestriel Légende qui est dans les kiosques depuis mercredi, Philippe.
À la une de ce numéro 1 de Légende, c'est Zinedine Zidane. On parlait du fait qu'il y avait des textes, des choses qu'on n'avait pas encore lues sur Zidane. Et de la même façon, il y a des images qu'on n'a pas encore vues de Zizou. Comment avez-vous fait pour les obtenir ? Où les avez-vous trouvées, Eric Fotorino ?
Alors effectivement, vous avez raison, c'est très important l'iconographie. Donc on a bien sûr une personne chez nous, Pierre-Angéry Lickschuler, qui cherche justement les photos. Son métier, c'est de les chercher, de les négocier. Et puis pour ces photos justement dont vous parliez tout à l'heure, des yeux dans les bleus, qui était le grand documentaire de Stéphane Meunier, eh bien on a été aidé par un ancien rédacteur en chef de l'équipe, qui est Jean-Denis Walter, qui a maintenant aussi une galerie sur le sport. Et qui nous a aidé à obtenir ces photos magnifiques où on voit, il y a une scène notamment de Zidane et de Djorkaeff dans les vestiaires, chacun avec son épouse.
Ah oui.
Ils sont là tous les quatre après la victoire contre la Croatie en demi-finale et c'est la vie qui passe, quoi. Voilà. Je trouve que c'est à la fois la joie, la détente, la fatigue. Il y a un cours au tableau noir d'Aimé Jacquet avec Henri-Émile qui était l'intendant et ils sont là tous les joueurs comme en classe.
Et puis
Une photo incroyable, vraiment incroyable.
Je la montre à la caméra pendant que vous la décrivez. Ah non, il y a celle de
Fabien Barthez.
Je pensais que vous alliez décrire parce que j'avais cahier la page. C'était Stéphane Meunier et là, tout seul dans le vestiaire, on est le 10 juin et Zizou est expulsé contre l'Arabie Saoudite et il est seul dans le vestiaire. Vraiment,
Et là,
décrivez
exactement.
La photo.
Et alors, vous voyez, vous avez raison. Et vous savez, tout à l'heure, je disais la taille de la photo qui compte. Eh bien, là, on a l'impression que la solitude de Zidane, à ce moment-là, est immense. Qu'il est seul au monde. Il y a tous les sacs des autres joueurs qui sont encore sur le terrain. Et lui, là, il est l'homme seul. Il est celui. Et quand il est sorti du terrain, c'est une photo qui est au début dans la vie de Zidane. On a 20 pages de photos sur sa vie. Quand il sort du terrain, Aimé Jacquet ne le regarde même pas. Et ils se croisent comme ça. Et donc, le fait qu'il n'y ait pas de regard montre à quel point l'entraîneur est furieux de ce qui se passe.
Il y a également des entretiens avec des auteurs qui ont écrit sur Zidane, vous l'avez dit, ou co-écrit comme Dan Franck, l'écrivain. Il raconte comment il retrouve Zidane à Turin. À l'époque, Zidane a 27 ans quand il joue à la Juve. Il pense que sa carrière est terminée. Il ne sait pas qu'il va aller au Real et faire la carrière qu'on sait. Et Dan Franck raconte. Et là, donc c'est Zidane qui a 27 ans, il s'est mis à m'expliquer en gros que sa vie était finie parce qu'il réalisait qu'il allait bientôt devoir arrêter de jouer. Et ensuite, il ne se voyait pas, je cite, entraîner des équipes ni faire de la pub pour des marques. Comme quoi même Zidane peut se tromper.
Oui, bien sûr. D'abord sur son destin, parce qu'on l'a vu encore ces derniers jours, avec comme entraîneur du Real, on a l'impression qu'il a vraiment encore de l'or dans les pieds ou dans les mains. Et c'est vrai qu'à cette époque, Dan Franck est complètement saisi par cette forme de mélancolie qu'il y a chez Zidane, qui parle pas beaucoup, qui est plutôt un taiseux. Et là, il sent une vraie détresse chez lui. Et en même temps, il y a le ressort de ces gens qui sont pas tout à fait comme nous tous. Et qui arrivent à un moment donné à se réinventer dans quelque chose qui leur ressemble et qui est en même temps différent.
Combien de pages ? C'est une centaine de pages ? Oui, une centaine de
pages.
C'est vendu 20 euros. C'est quoi le modèle économique ? Parce qu'il n'y a pas de pub, je précise.
Il n'y a pas de pub comme sur Le 1 ou Zadig ou America qui sont les autres publications qu'on a lancées depuis 6 ans. Mais c'est, vous savez, Philippe, c'est le même modèle qu'on essaie de poursuivre et
je vais
et
poser
de
ma question différemment. Je vais poser ma question différemment. Il faut en vendre combien pour que ce soit rentable et que ce soit pérenne?
Il faut en vendre en moyenne 30 000.
Voilà. Et il y a de l'abonnement.
30 000, on a déjà 3 000 abonnés.
Ouais.
Donc 10% du chemin a été fait par ce qu'on appelle le financement participatif qui a permis de faire naître Légende. Et puis, Légende est à la fois en kiosque et en librairie. Alors, la difficulté du moment, c'est comme vous savez, la distribution, par exemple, à Marseille, à Toulouse, à La Rochelle, ces jours-ci, c'était difficile de trouver Légende, ce qui évidemment m'a rendu un peu triste et furieux parce que les dépôts ne sont pas servis, les kiosquiers ne sont pas tous alimentés du fait de la crise de la distribution.
Justement, je vous en parlais, on vous a reçu Eric Fotorino il y a quelques semaines pour évoquer la crise au sein de Presstalis, qui est le principal distributeur de la presse en France. C'est les trois quarts des journaux et des magazines français sont distribués par Presstalis. Les recettes de vos journaux, à savoir le 1, Zadig, America, sont gelées. Presstalis, vous devez 800 000 euros. Est-ce que vous avez une chance de récupérer votre argent ?
Vous voyez, votre question, elle me donne envie de redonner le coup de boule de Zizou. Hein, parce que c'est vrai que là, je suis vraiment très, très fâché et plus que ça. Et je ne suis pas seul. Hein. Mon camarade Franck Hannes, qui a tous ses journaux,
SoFoot,
etc., et dans le même,
et
qui vient de lancer SoGood, on est dans la même situation. C'est-à-dire, nos recettes sont bloquées, toujours. Donc moi, les 800 000 euros qui sont devenus en fait 930 quand on a fait tous nos calculs hein, des recettes, on est aujourd'hui à 930 000 euros qu'on nous doit. On vient d'apprendre vendredi que l'ARCEP, qui est le régulateur de la distribution, nous impose de continuer de payer 2,25% de notre chiffre d'affaires à Presstalis, la nouvelle société qui naîtra des décombres de Presstalis. Donc c'est vraiment un pur scandale. Je m'en suis ouvert dès ce week-end aux autorités de l'ARCEP en disant vraiment qu'ils veulent vraiment nous faire crever. Et ça, je trouve ça incroyable qu'aujourd'hui, l'état de droit ne soit pas respecté pour la presse indépendante. Moi, je ne veux pas participer à une solution comme celle-là, puisqu'elle peut nous tuer. Vous comprenez
très bien. On a bien compris. On a bien compris.
Si vous n'avez pas vos recettes, vous mourrez.
Surtout avec vos 930 000 euros là-bas chez eux. Merci beaucoup, Eric Fotorino, fondateur et directeur de l'application de Légende. La rédaction en chef, il faut le dire, est assurée par François Vec, également rédacteur-chef de Zadig. Voilà.
Exactement.
Et le premier numéro que disponible en kiosque quand on le trouve. Et la une, c'est Zinedine Zidane. Merci d'avoir été avec nous.
C'est moi qui vous remercie. Bonne journée.
Notre prochain invité, Emmanuel Lebert. Il a réalisé Un an chez les vieux, un documentaire inédit dans la continuité de Quotidien. Et on en parle avec lui dans un instant sur Europe.
9h, 11h, Europe 1, Culture Média, Philippe Bondel.
Et dans Culture Média, on accueille Emmanuel Lebert, Philippe.
Bonjour Emmanuel Lebert.
Bonjour.
Vous êtes réalisateur pour l'émission Quotidien. Vous venez nous annoncer le premier numéro d'une nouvelle collection sur TMC. Ça s'appelle Doc Quotidien, Un an chez les vieux. Comment ils sont devenus plus cool que les jeunes? Ça sera demain à 21h15. Mais d'abord, quel est le principe de Doc Quotidien?
Doc Quotidien, c'est essayer d'étendre dans la durée ce qui existe déjà. Moi, j'ai fait beaucoup de sujets assez courts, plutôt drôle, d'humeur, sur plein de thèmes, dont les vieux, qui sont un véritable man. Et l'idée, c'était d'étendre ce concept et de pouvoir donner un peu de poids, de profondeur, tout en gardant l'aspect LOL, voilà, qui touche le plus grand nombre, puisque c'est une émission qui marche.
Il y a une émission LOL, il y a un thème LOL, justement. Le thème de demain, c'est Un an chez les vieux. Alors d'abord, vous osez les nommer. Vous ne dites pas nos aînés, comme dit Emmanuel Macron, le président. Vous ne dites pas les seigneurs, comme on dit dans le vocabulaire médical ou dans les EHPAD. Vous dites carrément les vieux. Pour quelle raison?
En fait, en tournant tous les mots, tous les synonymes, finalement, on se dit jeune. Qu'est-ce qui s'oppose à jeune? C'est vieux. Vieux n'est pas un gros mot, finalement.
Oui, mais on n'a plus le droit de le dire dans les médias.
Bon, il faut oser. C'est pour ça que je suis là, non?
Comment? Bien sûr. Moi, je trouvais ça m'a beaucoup séduit. Mais vous savez bien qu'il y a des mots qu'on n'a plus le droit de dire.
Bon, vieux, je ne trouve pas du tout ça péjoratif.
Et la chaîne vous a dit quoi?
La chaîne a dit banco. La chaîne a dit banco. À partir du moment où même eux, je les questionne et je leur demande comment voulez-vous que je vous appelle, qu'ils me disent vieux, ça me va, on y va.
Oui, vous savez qu'aux États-Unis, on ne peut plus dire les noirs, il faut dire les afro-américains, sauf si vous êtes vous-même noir.
Oui, mais on est en France.
C'était le sens de ma question.
On est en France et le politiquement correct, bon, bah, on peut s'en...
Quelle définition vous donnez des vieux? On est vieux à partir de quel âge? Parce que ce n'est pas dit dans le sujet. Et je me suis dit, s'il ne le dit pas, c'est volontaire.
Bah oui, parce qu'en fait, c'est une catégorisation. Être vieux, il y en a qui sont vieux peut-être à 40 ans, d'autres qui ne le sont jamais.
Alors c'est là vous jouez sur les mots, parce qu'en même temps vous dites il y a 13 millions d'invisibles. Et dans le papier de Télé 7 jours, ils disent 15 millions. Il y a combien de vieux en France?
Bon, alors moi je ne suis pas statisticien, ce qui est sûr c'est
dans
que...
Dans le sujet vous dites 13?
Oui, pour les plus de 65 ans, mais justement, on considère les plus de 60, les plus de 55, vous savez, au sport vous êtes vétéran à 35 ans. Ouais. Donc voilà, puis... Moi, j'ai des personnages dans mon film qui ont 80 balais et qui ne sont pas vieux, en fait.
7 témoins, comme vous le dites, ils ont 549 ans à eux 7. Donc, j'ai fait le calcul, ça fait 78 ans et demi de moyenne. Vous les avez choisis comment?
Alors, c'est amusant parce que c'était assez étourdissant. Je ne voulais pas des vieux. J'ai 105 ans et je fais du vélo, je fais de la montgolfière. Non, ce n'est pas des gens exceptionnels. Ce sont, vous l'avez dit, des invisibles. Il y en a 13 millions. Donc, non, j'ai juste voulu...
Ils sont quand même assez exceptionnels.
Oui, mais je vous assure que si j'avais pu continuer encore mon film, j'en aurais eu encore des dizaines et des dizaines. En fait, c'est le regard qu'on pose sur eux, c'est le fait qu'on s'arrête un petit peu et qu'on les regarde dans les yeux, et ils ont beaucoup de choses à dire, je vous assure.
Ils sont vraiment exceptionnels. Quand vous faites du ski avec cette dame de 78 ans, et votre caméraman et vous, elle vous met à l'amende, et vous êtes par terre, et elle trace la route, me dites pas que c'est juste le regard. Elle est physiquement nickel.
Oui, non, mais c'est ça qu'on aime chez eux aussi. Mais je pense que si on passait plus de temps avec eux, forcément, on s'apercevrait qu'ils sont souvent exceptionnels.
La première séquence se passe à Nice, en bord de mer, avec des gens qui se baignent, qui ont l'air totalement dégagés des contingences matérielles, qui se baignent parfois tout nus. Est-ce qu'ils sont représentatifs des vieux Français? On a quand même l'impression que vous avez choisi des privilégiés. Ou est-ce que je me trompe?
Alors, le Sud-Est, la Côte d'Azur, c'est un peu l'Eldorado des vieux. Hein. Ouais. Beaucoup y vont, y compris d'autres régions.
Vous êtes allé sur la Côte d'Azur à Nice, et à Nice, vous êtes allé sur la promenade des Anglais.
Oui,
vous avez fait la niche dans la niche de la niche.
Oh, je ne sais pas, la plage, c'est un lieu très démocratique. Et finalement, ils se retrouvent, ils me le disent d'ailleurs, ils sont de tous horizons, toutes catégories. Non, et ils discutent. Alors, Jaja vous paraît peut-être un peu avec ses intonations.
Elle s'appelle Jacqueline, elle est un peu allumée.
Ouais, une duchesse des glingos. Quoi.
Mais tous les vieux ne se baignent pas à poil, si?
Ah non.
Parce que vous montrez des vieux qui se baignent à poil.
Il y en a aussi.
Ils ne sont pas représentatifs, c'est ce que je voulais savoir. Je voulais savoir si c'était un focus ou si c'était au contraire une illustration d'un cas général.
Je crois qu'en fait, on est comme on est tout au long de sa vie et qu'on devient vieux comme on a été jeune, en quelque sorte.
La première question qui vient, évidemment, est celle des relations, de la solitude et accessoirement de la vie sexuelle. Il y a une image saisissante. Vous filmez trois femmes seules sur un banc qui se disent, vous, ça n'a pas l'air d'être vraiment des copines parce qu'elles n'ont pas l'air de trop se connaître. Et vous allez les voir.
Comment ça se fait que vous soyez qu'entre filles?
Parce qu'on n'est pas... Et puis non, les hommes préfèrent les filles beaucoup plus jeunes. Ah, alors des hommes de 80 ans, ils draguent des filles de 60 ans au bas mot.
Sans vous avez l'air quand même assez péchu.
À la pêche, oui, on l'a.
Donc
mais ça veut rien dire. Il y a des mochetés qui plaisent et il y a des gens sympas qui plaisent pas. Puis voilà, c'est comme ça.
Et on découvre ce paradoxe. Quand ils sont célibataires, les hommes cherchent des femmes plus jeunes qu'eux, mais en face... Et là où c'est dingue, les femmes cherchent des hommes plus jeunes qu'elles. Et en fait, quand on a 70 ou 80 ans, quand on regarde votre film, on se dit, ben, on est condamné à finir tout seul parce que personne ne trouve jamais grâce à nos yeux qu'on soit homme ou femme.
Oui, ce sont des exemples. Mais
Tous disent, toutes les femmes de 80, Jaja, elle dit, moi je veux un type de 60. Elle ne veut pas un type de 80.
Mais c'est Jaja, elle est exceptionnelle.
Oui, mais vous ne dites pas, c'est celle-ci. Mais tous ceux qui parlent dans votre doc veulent des plus jeunes, qu'ils soient hommes ou femmes.
C'est comme ça, mais en fait, je crois qu'on peut trouver 57% des personnes donc, de cette catégorie, finalement, croient encore trouver l'amour. Et je vois ma mère qui a 75 ans, elle a retrouvé l'amour juste là.
D'accord. Elle n'est pas dans le film?
Non, elle n'est pas dans le film, mais c'est ma mère.
Vous donnez un citer ce sondage, 45% des vieux font l'amour toutes les semaines. C'est un sondage Ipsos. J'adore parce que vous l'écrivez comme ça, vous écrivez des vieux. C'est évidemment du déclaratif. D'après votre enquête, c'est combien?
De mon enquête, c'est-à-dire de mes persos?
Ouais. Oh, les persos, ça veut dire les personnages, je dis, pour les gens qui connaissent
pas. Ouais. Les 7 personnes qui apparaissent régulièrement dans le film. Écoutez, honnêtement, je crois que dans leur sonore, quand ils parlent, quand ils sont interviewés, ils disent à peu près dans quelle situation ils sont.
Ouais.
Ouais, ça doit être à peu près 50%.
D'accord, 50%. On reste sur ce 50-50. Vous restez avec nous, on a encore plein de questions et je voudrais qu'on entende la manière dont vous parlez aux vieux dans le film. C'est savoureux.
C'est le premier numéro de la collection Doc Quotidien. Il s'appelle Un an chez les vieux. Comment ils sont devenus plus cool que les jeunes. Il est diffusé demain soir sur TMC. On continue à en parler avec son réalisateur Emmanuel Lebert dans un instant sur Europe 1.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
Un an chez les vieux, c'est le premier numéro du Doc Quotidien. C'est diffusé demain soir sur TMC à 21h15 et par le réalisateur Philippe, Emmanuel Lebert, pardon, qui est notre invité, Philippe.
Mais oui, Philippe, c'est moi. Ce qui est formidable dans le Doc, c'est que vous tutoyez les vieux comme c'était des petits jeunes. Comme quand vous allez faire des gens qui font la queue avant un concert de K-pop et vous leur parlez par exemple d'Internet. Et ça commence par Lorenzo, que vous tutoyez, Lorenzo, qui a 75 ans.
Tu utilises Internet, toi?
Oui.
T'es complètement connecté?
Oui, oui.
T'achètes aussi un peu online?
Très peu. Très peu.
Pourquoi?
Acheter online, c'est-à-dire...
En termes de technologie, de 1 à 10, t'es comment? T'es...
Moi, je suis au milieu.
Ah, ça, c'est un téléphone de vieux, tu vois.
C'est un smartphone, ça?
Ouais. Non, c'est un téléphone normal, quoi.
Qu'est-ce que tu fais avec, alors?
Bah, moi, je téléphone et je reçois.
T'as pas de portable?
Non.
Pourquoi?
Non, j'ai pas envie.
Toi, tu l'utilises pas, le GPS? Bah,
tu sais... Ah, mais j'ai... Pas du... Je me marre.
Pourquoi tu parles?
J'ai pas de voiture, j'ai pas de portable, j'ai pas Internet. Je suis une pauvre déconnectée.
Elle a 80 balais. J'ai pas compris. Ils sont connectés, ils sont branchés ou pas du tout? Parce qu'il y a la voix d'Étienne Carbonnier. C'est pas vous qui faites la voix, c'est Carbonnier,
oui.
Avec le ton qui est le sien, qui dit « Ouais, les vieux, c'est des geeks !» Mais non, c'est pas des geeks. Ils sont parfois à la ramasse.
Ils sont à la ramasse, mais en fait, c'est un choix. C'est par choix. Il y en a que, voilà, certains arrivent à pianoter sur Internet avec plus ou moins de difficultés, n'est-ce pas? Mais on les a tous vus, en fait. Moi, je fais encore référence à ma mère ou à... ma tante, elles sont un peu handicapées par rapport à ça, quoi.
Ouais.
Mais en même temps, voilà, certains peuvent surfer, poster des petites photos, envoyer. Donc, il y a encore une fois un peu tous les cas de figure. Mais globalement, ils sont plutôt à la ramasse, mais c'est sympathique.
Puis il y en a qui vont sur les sites porno, mais ils n'osent pas vous le dire. Parce qu'ils savent que leur femme va regarder après. Alors, ce n'est pas politiquement correct. J'aurais pu faire un montage là, façon quotidien, pendant tout le reportage. Qui qu'il soit, qui qu'elle soit, où qu'il soit, ça picole.
Ça fait partie de la vie de mes vieux.
Ouais. Ah, voilà. Vous les avez choisis. Hein.
Et j'ai pris du plaisir à passer des dimanches après-midi avec eux, voilà, des apéros. Mais ils étaient tellement heureux qu'une caméra vienne comme ça chez eux, collecter ce qu'ils avaient à dire. Franchement, on faisait partie de la famille.
Il y a même Claude que vous avez suivi, il fait de la chimio, il va se faire opérer le lendemain. Il a une double opération de 7 heures, un cancer au foie, un cancer à un nerf de la jambe. Et la veille de l'opération, il sert un petit coup de blanc.
Ouais.
Voilà, c'est comme ça.
C'est pas contre-indiqué.
Vous avez montré vous avez monté un bout à bout de trois attitudes face à la retraite, parce qu'évidemment, qui dit vieux dit retraite. Il y en a un qui a l'impression que tout s'est arrêté, un autre qui est très heureux, et un troisième qui a l'impression d'être un parasite, quand bien même il est heureux, on écoute.
La retraite, pour moi, c'est une chance d'un côté, parce que j'ai pu faire ce que j'aime, chanter. Mais vraiment chanter comme je l'aime. Mais ça a été une mort de notre côté parce que j'étais en pleine bourre. Et puis après, tout à coup, je me suis retrouvé à la retraite. J'étais sur l'autoroute, je roulais à 140. On m'a pris, on m'a mis sur le côté. On m'a dit, ça y est, tu comptes plus, c'est fini.
Quand tu t'arrêtes de travailler et qu'on te paie, que tu fais rien pour un mec comme moi, c'est pas vrai. Tu rêves, quoi. Tu rêves parce que c'est fou. T'as tous les mois un truc qui tombe. Le matin, tu peux te réveiller à 10 heures tous les jours. Non mais ça c'est extraordinaire, ça c'est le bonheur complet.
J'avais le sentiment qu'on allait me payer pour rien. Et ça, je l'ai parfois formulé, ça pouvait choquer des gens, disaient je ne veux pas être un parasite. C'est-à-dire je ne veux pas être quelqu'un ou un mendiant à qui on jette une pièce, tout ça, donnez-moi à manger s'il vous plaît, etc. Non, je voulais prouver par ce que j'allais faire, peut-être dans la société, que... Bah après tout, oui, bien sûr, je recevais une retraite, mais je faisais des choses utiles, intéressantes pour la société.
On va entendre ces témoignages dans cette nouvelle case donc sur TMC qui s'appelle Doc Quotidien. Il y a un paradoxe, vous faites partie de l'équipe de Quotidien. Quotidien qui suivait au jour le jour avec beaucoup d'empathie, voire d'adhésion, les manifestations contre la réforme des retraites, donc contre l'idée de repousser l'âge de la retraite. Et du coup, on ne comprend pas bien la ligne, la retraite à 65 ans, c'est vieux, c'est pas vieux, c'est trop tard pour vous.
J'y suis pas encore.
Ouais.
J'espère la prendre le plus tard possible parce que je prends
non,
énormément
de plaisir.
Non, mais
pas pour vous, mais de votre point de vue. Quand on regardait Quotidien sur la réforme des retraites, on a l'impression qu'il fallait que tout le monde soit à la retraite à 60 ans parce que 60 ans, c'était vieux. Et là, quand on regarde votre doc, on a l'impression que 78, c'est pas vieux.
En fait, je donne la parole à des personnes très différentes. Et c'est vrai que quand on voit Yvette dans son magasin à 78 ans continuer à bosser et dire qu'elle pourrait pas s'arrêter, c'est pas possible. Et que d'autres, au contraire, comme Christian, extraordinaire, de dire que voilà, il est payé, il peut faire ce qu'il veut, se lever à 10 heures. Voilà, c'est inspirant. En fait, ils sont tous des... voilà, ils nous montrent le chemin, on ne sait pas comment ça va être. Et voilà, chacun a son point de vue, son mode d'emploi. Et puis, ben, voilà, on s'en inspire.
Voilà. Quelle audience est attendue? Vous pensez faire le million? Je veux dire le sens de ma question. Est-ce qu'il y aura d'autres numéros un an avec, en doc quotidien?
Ah ben j'aimerais. Après, le traitement est original. Il me semble que voilà, c'est quelque chose qu'on n'a pas vraiment vu à la télé, à cette case, en prime time. Donc j'espère que ça va marcher.
Vous les avez eu au téléphone depuis le Covid? Parce qu'évidemment, vous avez tourné avant le Covid. Qu'est-ce qu'ils en disent?
Bien sûr, bah, ils sont à fond, ils sont chauds patates. Ils ont hâte de
déjà,
voir.
Déjà, ils sont tous vivants.
Ils sont tous vivants.
Parce que je dis ça parce que vous n'éludez pas la question de la mort dans le doc.
Non.
Et c'est aussi une de ses qualités. Donc ils sont tous vivants, chauds patates.
Ils sont tous vivants, ils ont pris plus ou moins de précautions pendant cette période-là, mais voilà, ils avaient envie de vivre. À titre personnel, moi j'ai perdu ma grand-mère à ce moment-là, pas directement du Covid, mais probablement aussi de l'éloignement, parce que j'ai pas pu la voir pendant toute la période. Et je me dis que voilà, c'est important de maintenir le lien avec eux.
Maintenons le lien. Merci beaucoup Emmanuel Lebert. Je rappelle le premier numéro d'une nouvelle collection peut-être sur TMC. Ça s'appelle Doc Quotidien. Un an chez les vieux, comment ils sont devenus plus cool que les jeunes. C'est demain à 21h15 sur TMC. Culture Média qui continue évidemment dans quelques instants. Il y aura le journal de la culture d'Hélène Manarino. Notre invité ensuite, Émilie Loiseau, pour son nouvel album Run, Run, Run en hommage à Lou Reed. Portrait inattendu par Hélène. Et puis la bonne nouvelle du jour. Les salles de cinéma qui sont ouvertes depuis ce matin, mais non sans sécurité, distance d'un mètre, sens unique de circulation. Mathieu Charrier va nous détailler le parcours sanitaire qui nous attend. Et puis enfin, un roman bref et intense d'un écrivain que j'adore beaucoup, s'appelle Un mariage en 10 actes, et c'est Nick Hornby, c'est Nicolas Carreau qui l'a disséqué pour nous. Mais d'abord, le journal de la culture, juste après ça.